Pendant le mois d'Elul, alors certains ont le minhag de réciter le Mizmor Tehilim de David Hashem, Ori Veish'i Mimira. C'est-à-dire, c'est un Mizmor dans lequel David HaMelech dit Hashem Ori, Hashem c'est ma lumière et ma délivrance. Alors le Midrash dit là-dessus Ori Ze Rosh Hashana, Yish'i Ze Yom HaKippurim. C'est-à-dire que ma lumière c'est Rosh Hashana et ma délivrance c'est Yom HaKippurim. Alors que Yom HaKippurim est appelé Yeshua, Yish'i, une délivrance, ça on le comprend. Parce qu'en effet, Yom HaKippurim, c'est là où on est délivré, libéré de toutes nos fautes. Comme on dit, le grand pardon, c'est là où on est pardonné de tout ce qu'on a fait toute l'année. Alors que Rosh Hashanah, pourquoi est-ce qu'il est appelé Ori? Pourquoi et en quoi Rosh Hashanah est considéré et comparé à une lumière? Ori, or. On sait bien qu'au Rosh Hashanah, eh bien, on passe devant Hachem et on est jugé. Hachem, il nous juge une fois dans l'année, deux fois dans l'année, Rosh Hashanah et Kippour, pour tout ce qu'on a fait toute l'année, du début à la fin de l'année de A à Z. Alors, a priori, où est la lumière? C'est quoi cette lumière? De quelle lumière on parle? En quoi Rosh Hashanah, c'est une lumière? Tov, à cela, pour expliquer cela, on va ramener la Gemara dans Brachot Daf Kafret. Tanu Rabbanan, Kshechala Rabbi Yochanan, Rabbi Chaman Zakai. Lorsque Rabbi Chaman était malade, eh bien, ses élèves sont venus lui rendre visite. Et lorsqu'il les a vus rentrer, il s'est mis à pleurer. Il a éclaté en sanglots. Alors ils lui ont dit, Notre mère, toi qui es la lumière d'Israël, toi qui es le Amud Haïmani, le pilier essentiel d'Am Israël, tu es comparé à un Patshe Chazak, comme un marteau qui est très fort. Pourquoi est-ce que tu pleures? Alors il leur a dit, il a répondu que si je vais me présenter devant un roi qui va me juger, et je ne sais pas de quelle façon il va me juger. Quelqu'un qui a un jugement, un peu de justice. Alors, non, il se met à trembler. Bien que, au pire des cas, c'est quoi? C'est une amende. Il va en prison quelques semaines, quelques mois. Bon, évidemment, c'est grave. Mais ce n'est pas si grave que ça. Alors que lorsque je vais me présenter devant Hachem, eh bien, qui lui va me juger. Et son jugement, il est éternel. C'est-à-dire que le jugement d'Hachem, ce n'est pas pour quelques mois, mais c'est pour une éternité. Et il y a une version dans Tanna Vielehu qui rapporte, qui rajoute. Non seulement cela, mais on va m'éclairer mes actions. On va expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Et je ne sais pas vers quel chemin on va me diriger. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas que j'ai une certaine crainte et que je me mets à pleurer. Bon, c'est une Gemara qui a beaucoup de commentaires et beaucoup d'idées essentielles à dégager, mais on va uniquement noter quelques idées qui nous concernent. Alors tout d'abord, il y a ici un diouk, c'est que Rabbi Chanan Zakai, il a pleuré lorsqu'il a vu ses élèves. Kshira Otam, lorsqu'il les a vus. Pourquoi? Encore une question. Si Rabbi Chanan, il avait peur d'être jugé par Hachem, alors qu'est-ce que nous on va dire? C'est-à-dire que Rabbi Chanan, qui était un des plus grands de toutes les générations, et qui vraiment qui dominait, qui maîtrisait toute la Torah, et qui a eu des milliers d'élèves, alors qu'est-ce que nous on va dire? Et ensuite, c'est quoi Meirin Lima Asai, qu'on va m'éclairer mes actions? Alors tout d'abord, lorsqu'on dit que Rabbi Yochanan, il avait une certaine crainte, c'est pourquoi? C'est parce que il a vu ses élèves. C'est-à-dire qu'en fait, une personne est jugée chaque année, même chaque jour. Mais à part ça, on est jugé, pourquoi est-ce qu'on fait lorsqu'une personne est décédée? Alors on fait ce qu'on appelle un Yortzeit. Chaque année, même après 10 ans, 20 ans, on fait, n'est-ce pas, une Askara, un Yortzeit. Pourquoi? Parce qu'on continue à juger une personne toute la vie, l'éternité. Lorsqu'une personne quitte ce monde, il est jugé pour ce qu'elle a fait. Et ensuite, chaque année, même après 5 ans, 10 ans, on va le juger sur les conséquences de ses actions. Ses enfants, ses petits-enfants, ses élèves, quelle influence, quel impact il a eu, positif ou négatif, sur tout son entourage. Qu'est-ce qu'il a laissé avant de quitter cette terre? s'il a laissé une fortune pour la tzedaka, eh bien, ça continue à agir. Il a bâti une synagogue, il a construit une yeshiva, eh bien, elle continue à produire des fruits spirituels, même 50 ans après sa mort. Et il va être récompensé pour cela, encore une fois, chaque année, on le juge le jour de l'anniversaire de sa mort. Si au contraire, il a monté une discothèque, une boîte de nuit, et bien au contraire, il sera puni encore une fois pour toutes les averot qui vont être réalisées, même 50 ans après sa mort. Et c'est pourquoi Rabbi Hanani dit, lorsqu'il a vu ses élèves, il s'est mis à pleurer. Pourquoi ? Parce qu'il savait bien qu'il était grand en Torah. Les grands en Torah étaient très modestes, mais étaient très conscients de leur niveau spirituel. Rabbi Hanani savait que c'était un des plus grands dirigeants de sa génération. Il sait pertinemment. C'est pas une chorma, pas une astuce de faire soi-disant le modeste et de fuir sa mission et sa responsabilité. Il ne s'agit pas du tout de ça. Au contraire, un grand homme, un homme modeste, il doit être conscient de l'importance de la mission qui repose sur ses épaules. Rabbi Hanani savait qu'en effet, le monde spirituel de sa génération reposait essentiellement sur lui. Et c'est pourquoi il savait qu'il avait un très haut niveau en Torah, en mitzvot, en tefillah, etc. Mais cependant, il avait un doute. Ses élèves. Il a vu les élèves rentrer, là il a pleuré. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas sûr et certain que pour ses élèves, qu'est-ce qu'il a fait ? Par exemple, peut-être qu'un élève, eh bien, une fois il lui a répondu de façon brutale, de façon vexante, et cet élève-là a quitté la Torah à cause de cela. Il y a plusieurs histoires graves dans ce domaine-là. Que des grands élèves, même de la Gemara, eh bien, ont fait des misères terribles à Israël parce qu'ils ont été trop repoussés par un de leurs rabbanim. Parce qu'un des rabbins ne les a pas compris et les a vexés, les a repoussés, n'a pas voulu les accepter. Bon, beaucoup d'histoires. Dans un autre domaine, même si le maître n'a rien fait de grave par rapport à ses élèves, peut-être qu'il a fait grandir un élève, mais il n'a pas assez fait grandir, il n'a pas assez rapproché. Il ne s'est pas donné à cœur et âme pour lui enseigner la Torah. Comme dit la Gemara, Rabbi Preda, il avait un élève qui était bouché. Mais alors bouché, comme vous n'avez jamais vu ni entendu. Il fallait lui répéter la Gemara 400 fois. Après 400 fois, il comprenait. Ce n'est pas quelqu'un qui était sourd. Il comprenait, mais il fallait 400 fois. Pas 399, 400. Après 400 fois, il comprenait. Un cas très spécial. Et Rabbi Preda, tous les jours, il répétait la Gemara 400 fois. 400 fois. Pendant, je ne sais pas, 5 heures, 10 heures, ça prenait. Il s'investissait cœur et âme pour son élève. Un beau jour, le Rav, Rabbi Preda, il devait aller à un mariage, il était invité quelque part. Il était un peu pressé. Et l'élève, il a senti que le maître n'est pas là. Il est là, n'est-ce pas ? Mais il est un peu stressé. Bon. Alors l'élève qui était bouché, il devenait encore plus bouché. Quand il sent que le maître n'est pas prêt, n'est-ce pas ? N'est pas tout à fait disponible pour lui enseigner la Torah. Alors, après les 400 fois, il a incompris. Encore une fois. Le maître lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit, je sens que vous êtes stressé, vous devez partir vite. Alors je suis mal à l'aise, je n'ai pas compris. Il a compris qu'il avait eu tort. Il a dit, mais tant qu'on toi bien, je recommence. Je ne vais pas au mariage jusqu'à ce que tu comprennes comme il faut. Il a répété encore une fois 400 fois. Encore 400 fois, au total 800 fois. Et puis cette histoire d'Ilagmara, elle a fait un bruit au ciel. Et puis on a demandé, les anges ont demandé de récompenser ce maître-là, qui a pu s'investir tellement de temps pour son élève. Et on lui a demandé, en rêve apparemment, qu'est-ce qu'il voulait ? Est-ce qu'il préférait vivre 400 ans ? Sa récompense, ou alors que Hachem rende méritante sa génération, que toute sa génération soit méritante, qu'on pardonne beaucoup de fautes de sa génération. De choisir, puisque sa génération avait le mérite d'avoir un tel rave, de telle grandeur spirituelle, eh bien, ils ont le mérite pas de leur pardonner leurs fautes. Et le rave a dit, je préfère que on pardonne les fautes de ma génération. Et on a répondu, eh bien, puisqu'il a choisi ça, donnez-lui les deux. Et on va pardonner à sa génération, et il va vivre 400 ans. Ça, c'était, n'est-ce pas, la récompense de quelqu'un qui se donne cœur et âme pour son élève. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, lorsqu'il a vu ses élèves entrer, Il savait qu'il était un grand dirigeant spirituel, mais il avait peur. Est-ce que réellement, il s'est investi suffisamment pour chacun de ses élèves? Est-ce qu'il a assez rapproché de fois un élève qu'il faut lui répéter 400 fois? Un élève qu'il faut l'encourager? L'autre qu'il faut lui sourire? L'autre qu'il faut ne pas lui donner du réconfort, de la chaleur, etc. Et pour chacun, le maître, comme les parents, doivent savoir quoi donner à chaque élève, à chaque enfant. Et c'est pourquoi Abraham avait peur. Est-ce que vraiment je suis méritant? Parce qu'en effet, on peut être méritant de façon individuelle, mais ne pas être méritant par rapport à ses élèves, à ses enfants, ses petits-enfants, son voisinage, etc. Et à ça dit le Midrash, Velo od ela sheme irin li maasai. On va m'éclairer l'importance, la valeur, l'impact de mes actions. Imaginez-vous, vous entrez dans une grande salle, une salle immense, mais c'est obscur. C'est la nuit, il n'y a pas de lumière. Alors vous apercevez à peine, vous avez à discerner quelques objets dans la salle. Et puis tout d'un coup, on allume les projecteurs, très puissants. Et là, vous constatez que cette salle, elle est pleine de meubles, d'objets, de lustres, de rideaux, pleine d'or et d'argent, pierres précieuses, des milliers d'objets de valeur inestimable qui apparaissent à vos yeux grâce aux projecteurs. Mais c'est pareil aussi. C'est que lorsqu'on se présente devant Hachem, à Rosh Hashanah, lorsqu'on quitte ce monde, lorsqu'on est jugé devant Hachem, eh bien, tout d'un coup, on va allumer les projecteurs. Parce qu'on vit dans l'obscurité. Voilà. Le Midrash dit que ce monde est comparé à un monde obscur. Olam, en vérité, le monde, c'est Olam. Olam, c'est Milashon Ha'elem. Elem, c'est caché. Tout est voilé, caché, dissimulé dans ce monde-là. Ce que tu vois, c'est pas ce que c'est réellement. Tu vois ici une table, n'est-ce pas? Mais c'est des atomes et des molécules qui tournent. La matière propre, elle fait même pas un grain de sable. Ce que tu vois, c'est pas la réalité. Tu vois quelque chose d'insignifiant, et en fait, c'est très important. Tu vois une étoile, c'est un point dans le ciel, mais en fait, c'est une planète géante. À ça, d'ailleurs, dit la Gemara, sur le verset, « Umatzdike arabim kakochavim l'olam veit. » Quelqu'un qui ramène les gens à la Torah. Quelqu'un qui a une influence positive dans le domaine spirituel. Sur son entourage, sa famille, ses camarades, ses proches, il a une influence positive. Il leur fait du bien, il les ramène à la Torah, à la Tfilah, tu vois. Eh bien, ça s'appelle Matzike Arabim, Kakochavim Lolambet. Ce sont comme des étoiles éternelles. C'est-à-dire quoi? Tu ne te rends pas compte de ce qu'il fait. Comme une étoile, ça t'apparaît un point dans le ciel, mais en fait, c'est une planète géante énorme. Dit aussi la Gemara, le même ordre d'idée, quelqu'un qui enseigne la Torah à des enfants. Il enseigne Aleph Bet. Aleph Bet Gimel a des enfants de 4 ans, 5 ans. Mais lui aussi, c'est un point dans le ciel comme une étoile. En général, on a tendance à donner de l'importance à des gens qui sont érudits en Torah, ou même dans le domaine scientifique, des grands professeurs, quelqu'un qui est docteur en philosophie, en physique, etc. Il est important. Mais quelqu'un qui va enseigner l'alphabet aux enfants, et la Gemara nous dit le contraire. Sache que celui-là, eh bien, il peut être plus important. Alors, quand le Gaon Mivilna, il avait une reconnaissance très spéciale à celui qui lui a enseigné Aleph Bet. Parce que c'est la base de tout. La base de tout. Et il a dit aussi, c'est aussi Torah Emet. Enfin, en faisant une Torah, bon, on peut se tromper aussi. Mais Aleph Bet, jamais on va se tromper. Mais on raconte ici que le Maharal Diskin, c'était un génie en Torah. Un grand génie. Il avait cette faculté. Quand il voyait un arbre, il pouvait en une seconde te dire combien de feuilles il y avait sur cet arbre. Tellement il était érudit en Torah. Et bon, il avait aussi des élèves qui étaient vraiment des géants en Torah. Il a enseigné pendant un mois entier, mois de Elul, des cours de 4 heures d'affilée sur la première page du Habatra, Ezek Reya. Une seule sugya, qui s'appelle Ezek Reya, pendant un mois, des cours de 4 heures entiers. Et ce grand géant en Torah, Maharal Diskin, il vivait environ 150 années. Et bien une fois, on l'attend la veille du Kippour pour Kol Nidre. Et il tarde. On va le chercher à la maison. On le voit en train d'étudier la Torah avec son enfant. Son enfant de 6 ans, 7 ans. On va dire, ah ben non, on l'attend. Il s'est mis à pleurer. Il leur a dit, j'ai fait un bilan annuel et j'ai vu que je suis très manquant dans les mitzvot. Mon niveau spirituel n'est pas assez élevé. Alors j'ai voulu agir de façon très rapide, très efficace. Le meilleur moyen, c'est d'enseigner Aleph Bet à mon enfant. Parce qu'en effet, ça c'est Torah Emet, ça te paraît insignifiant. C'est comme une étoile dans le ciel, tu vois un point illuminé, mais en fait c'est une planète qui est géante, qui est énorme. Ce qu'il dit ici le Midrash, c'est que Merin Maasai, quand tu rentres dans cette salle qui est immense, tu vois des objets, mais tout est obscur. Alors tu vois que des formes. Et tu ne te rends pas compte de l'importance, de la valeur de l'objet. Un objet qui te paraît un meuble, eh bien en fait, n'est-ce pas, c'est quelques kilos d'or ou d'argent. Plusieurs fois le machal, donner à un bébé, un enfant, petit enfant, un diamant qui vaut des millions, pour lui c'est un caillou, c'est une pierre, parce qu'il ne connaît pas sa valeur, il va automatiquement le jeter. Donner un billet de 100 euros, pour lui c'est un papier, il va le gribouiller, il va le déchirer. Et c'est en fait ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on ne connaît pas la valeur de la mitzvah, la valeur de la Torah. Et lorsqu'arrive Rosh Hashanah, lorsqu'une personne quitte le monde, eh bien là on allume tous les projecteurs. Me'erin li ma'asai. On va m'éclairer, on va m'illuminer, m'éblouir avec l'importance de l'action, avec l'impact, l'influence de la parole, la valeur de la pensée. Même chaque pensée est hyper importante. Comme dit Raphaël Volozhin dans son livre Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, chapitre 4, Shar Aleph chapitre 4, nous dit Raphaël Volozhin que lorsqu'on a une bonne pensée, ne serait-ce qu'une bonne pensée, eh bien, tu es en train de bâtir un édifice au ciel. Lorsqu'on fait une avéra, même dans la pensée, eh bien, tu es en train d'affecter ton âme et les mondes célestes, bien plus que l'on fait, Titus et Nebuchadnezzar, lorsqu'ils ont détruit le temple de Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash spirituel était déjà détruit par nos avérotes et nos fautes, et eux, ils ont mis, n'est-ce pas, le feu uniquement à une maison en bois, en pierre, d'or et d'argent, et c'est tout. Alors que le tochen, la consistance, l'intérieur spirituel du Beth Amikdash avait déjà disparu. Alors que lorsqu'une personne fait une mitzvah, une avera, elle va porter atteinte à ce qui est du domaine de l'esprit, de l'âme. Dans cette optique-là, dit nos sages, Rosh Hashanah est appelé Ori. Et le Beth Hashem, Ori, c'est ma lumière, c'est une lumière. Parce que Rosh Hashanah, eh bien, on va comme allumer le projecteur pour éclairer tes actions, pour te montrer quelle en fait la grandeur de l'action que tu as réalisée, pour ainsi pouvoir te juger. Quelle est l'importance de la mitzvah, une importance géante, quelle est la gravité de la vera. Alors, entre parenthèses, même si on n'arrive pas à se rendre compte, même si on peut dire, Rosh Hashanah, je n'ai pas vu le projecteur, je ne me suis pas rendu compte de la valeur de la mitzvah et de la vera. Alors, c'est pas grave. Pourquoi ? Comme dit la Gemara, Afalgav Deyulo Chazé, Mazal Echazé. Bien que lui ne voit pas, mais son Mazal le voit. Le Mazal, c'est la Neshama, c'est l'âme. Alors, je répète encore une fois, on parle de, il y a Nefesh, Ruach et Neshama. Plusieurs niveaux, l'âme qui est plus ou moins basse, Nefesh, l'âme qui est intermédiaire, Ruach et l'âme la plus élevée, suprême, qui est, on va dire, presque divine, qui s'appelle Neshama. Et elle voit tout cela. Maintenant, par rapport à ce que nous, on ressent, par rapport à ce qu'on sait, même si on ne peut pas vraiment le ressentir pleinement, le voir, mais on peut avoir un aperçu. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, pendant 48 heures de Rosh Hashanah, surtout dans la Tfila, surtout dans la Tfila de Moussaf, ainsi que Tkiyat Shofar, c'est là où on peut plus ou moins se rapprocher d'Hachem et percevoir, se rendre compte, prendre conscience de l'importance, la valeur de nos actions. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles Rosh Hashanah vient avant Yom HaKippurim. Parce qu'a priori, logiquement, si Hachem veut notre bien, alors il aurait dû d'abord nous pardonner, Yom HaKippurim, ensuite nous juger. Pendant qu'Hachem veut toujours nous aider. Ok, alors pardonne-nous, on n'a plus de faute, après tu nous juges. Alors une des raisons pour laquelle on fait Rosh Hashanah avant, parce qu'en fait, c'est impossible pour nous d'aborder Yom HaKippurim sans Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que si on est assez conscient de la gravité de la faute, eh bien, on peut sombrer dans la déprime, le désespoir. C'est-à-dire, dès qu'on va vouloir demander à Hachem de pardonner, on va se rendre compte de ce que c'est, on va dire c'est impossible, on va désespérer, on fera mal et on qui pourrit. À l'inverse, si on ne se rend pas compte de ce que c'est, la mitzvah et la vera, eh bien, on peut, n'est-ce pas, on peut passer Yom HaKippurim avec une certaine indifférence. en étant plus ou moins apathique, sans se rendre compte de ce qu'on peut réaliser à Yom Kippourim. Il faut absolument précéder Yom Kippourim de Rosh Hashanah. Là, tu vas être éclairé, illuminé de cette grande lumière spirituelle qui est Rosh Hashanah Ori, Haor Agadol, une grande lumière spirituelle qui va t'aider, même si tu ne le ressens pas, mais tu pourras ensuite agir différemment pour Yom Kippourim, qui va t'aider, n'est-ce pas, à prendre conscience plus ou moins de la valeur de tes actions. Rosh Hashanah, il est là pour nous élever. C'est Rosh Hashanah, c'est comme si on pénètre dans le palais royal. On pénètre à côté d'Hachem, dans son palais, et on est élevé, notre âme est élevée, notre personnalité, elle va augmenter de niveau, de grade. C'est écrit aussi l'inverse, que Rosh Hashanah, Hachem, il vient comme pénétrer dans notre cœur et notre esprit. Et il vient vérifier de quelle façon on va le recevoir, l'accepter. Hachem pénètre dans nos sentiments, dans notre esprit, notre conscience, et c'est ce qui va nous aider à nous élever. Alors d'une part, n'est-ce pas, à ne pas sombrer dans le chagrin, le désespoir à cause des avérotes. Des fois, on va faire tchouva, on va avancer, mais on est un peu découragé. Mais c'est pas le domaine des avérotes, dans la vie en général. Lorsqu'on va avancer, alors bon, c'est pas toujours facile. Surtout si on a passé plusieurs échecs, c'est encore plus difficile. Chaque échec va nous enlever cet espoir, cette confiance en nos capacités, nos facultés. C'est pourquoi la Torah nous dit, d'abord, tu vas fêter la fête de Rosh Hashanah. Tu vas t'élever, tu vas grandir, tu vas te rapprocher d'Hachem. Hachem va se rapprocher de toi. Après Rosh Hashanah, tu auras beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus d'émouna, de foi en tes facultés, tes capacités. C'est là où tu pourras ensuite aborder, entamer Yom Kippourim. On voit aussi, dans ce domaine-là, que Rosh Hashanah, bien qu'il est appelé jour de Tshuva, on a tout à 10 jours de Tshuva, de Rosh Hashanah Yom Kippourim. Et on se pose la question, où est la Tshuva de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, il n'y a pas de vidouille, pas de filat apaim, pas de slichot. C'est quoi la Tshuva? On ne voit pas ici la Tshuva. Alors en fait, là aussi, c'est une idéologie qui est très très pédagogique, on va dire, qu'en fait, la tshuva, eh bien, de Rosh Hashanah, elle va débuter par le fait d'oublier le passé. Tu veux faire tshuva? Alors, ne pense pas à tes fautes. Mets tes fautes de côté, tu les mets dans un tiroir. Tu vas les oublier pendant 48 heures. Et tu vas ouvrir une nouvelle étape dans ta vie. Tu vas, n'est-ce pas, entamer une nouvelle vie. Tu vas recommencer à zéro. C'est pourquoi aussi Rosh Hashanah, eh bien, c'est le premier jour de l'année nouvelle. A priori, Hachem nous juge. Alors le jugement doit être le dernier jour de l'année précédente. Pourquoi est-ce qu'Hachem nous juge le premier jour de l'année suivante? Là aussi, en tout de faire tshuva, eh bien, recommence une nouvelle année. Entame une nouvelle année avec un grand espoir, une grande confiance en Hachem, ainsi qu'en tes capacités, en tes facultés, de transformer ta vie, de tout métamorphoser. On a le minhag de tremper, en Hashanah, le pain et la pomme dans le miel, qui trempe presque tous les aliments. Alors, un des remazim, une des allusions de ce que c'est le miel, parce que le miel, il a cette particularité que pratiquement presque n'importe quel aliment que tu mets dans du miel, pendant quelques mois, après quelques mois, il est transformé en miel. Il y a cette métamorphose qui se réalise. Pour te dire que Rosh Hashanah aussi, c'est un jour dans lequel tu peux être métamorphosé. Hachem, il va te transformer, il peut te transformer à condition que tu y crois et que tu le veuilles. Et dans cette optique-là, Rosh Hashanah est appelé Ori. Une lumière, c'est ma grande lumière. C'est ce qui va m'éclairer. Alors j'insiste sur le fait que nos sages, en fait c'est la Torah, qui nous a donné cet ordre à suivre. C'est que lorsqu'on fait tshuva, on te dit, eh bien, la première chose à faire, c'est de recommencer. C'est de déclarer Hachem Melech. Les fautes, on va les entamer après. Après Rosh Hashanah, on a une semaine entière pour demander à Hachem Sticha, pour faire tshuva, pour regretter avec amertume tout ce qu'on a fait pendant l'année précédente. Pour ensuite arriver à Yom Kippourim, qui est en effet le grand pardon, le grand jour, n'est-ce pas, dans lequel on va et recommencer la nouvelle année, et aussi demander pardon. On a les deux notions, n'est-ce pas, de Rosh Hashanah et de Teshuvah qui sont mêlées ensemble à Yom Kippourim. Mais la première chose à réaliser, à faire, c'est ouvrir une nouvelle page, un nouveau livre dans sa vie. Comme c'est écrit dans Bereshit, Zesefer Toldot Adam. C'est que la vie d'un homme, c'est un livre. Alors tu veux faire tchouva, tu veux changer quelque chose dans ta vie, eh bien tu vas commencer à ouvrir un nouveau livre. Tu vas oublier tes fautes, tu vas être dans la simra, dans la joie. Il faut aussi une certaine crainte en effet. On a des notions qui sont paradoxales. Des Rosh Hashanah, il faut être besimra, dans la joie. Et il faut aussi une certaine crainte d'Hachem. Pourquoi? Comment est-ce que ça marche les deux ensemble? Alors en fait, parce que Hachem, il vient te rendre visite dans ton cœur et ton esprit. Alors, quand le roi vient chez nous, on est très content de le recevoir. Mais on a une certaine crainte. Est-ce qu'on le reçoit comme il faut? Alors, pour Hachem, Kalochomel Cholchekan encore plus, parce qu'Hachem, il ne va pas vérifier est-ce que tu as mis un tapis rouge ou alors une belle nappe. Ce n'est pas ça ce qui l'intéresse. Il va vérifier quels sont tes sentiments, quelles sont tes pensées, tes idées, quel est ton programme pour l'année à venir. De quelle façon tu prévois d'entamer la nouvelle année? Quel programme spirituel tu as prévu pour l'année à venir? Et en fait, c'est ça ce qui est le plus déterminant pour Rosh Hashanah. Bien plus que la tshuva pour l'année passée, on ne la fait pas à Rosh Hashanah, ça viendra après. La tshuva de Rosh Hashanah consiste à ouvrir une nouvelle vie dans sa vie. Tu recommences ton année à zéro, tu as 48 heures pour déclarer devant Hachem, Hachem Eler, Hachem Alar, Hachem Lor, on répète pas 36 fois, que la malchut d'Hachem, le fait d'accepter toutes les mitzvot et la Torah d'Hachem de façon parfaite, la Torah dans toute son entité. Et ensuite vient la tshuva des jours de tshuva et de Yom Kippourim. Alors dans ce domaine-là, dit nos sages, Rosh Hashanah est appelée une lumière. C'est une grande lumière pour nous d'être éclairés, dirigés de cette façon. Que la tshuva, eh bien, il ne faut pas commencer à se lamenter pour le passé. Il faut d'abord commencer une nouvelle vie. Vérifier réellement, concrètement, que tu es capable. Tu es capable de réussir. Quelqu'un fait tshuva, alors qu'est-ce qu'on lui fait? Alors, avant de regretter les fautes, eh bien, on lui dit, viens, prends une Gemara. Étudie la Torah. Tu vas être éclairé par cette Torah. Ah, mais j'ai 36 averot, laisse les de côté. Dans un tiroir, pendant quelques jours, quelques semaines. Après, on va les traiter. D'abord, il faut donner à la personne la confiance en ses facultés, ses capacités. Il faut l'éclairer avec ce projecteur spirituel. Il faut éclairer sa neshama, la réveiller. Parce que la neshama, eh bien, en effet, elle est excitée, incitée par tout ce qui est spirituel. En général, notre neshama est plus ou moins anesthésiée. Je répète, on parle de neshama, pas de nefesh ruach, mais neshama, n'est-ce pas, c'est le niveau spirituel le plus grand de l'âme. Très souvent, elle est endormie, anesthésiée. À Rosh Hashanah, eh bien, tu vas l'éclairer par la tefila, par le shofar, par cette tshuva d'entamer une nouvelle vie, un nouveau programme spirituel pour l'année à venir. Et de cette façon-là, eh bien, tu es éclairé, ébloui par une lumière intense et gigantesque, ce qui va t'aider en fin de compte ensuite à bien passer Yom Kippourim et le jour de la tshuva. Alors, le mois de Elul, un mois, 30 jours, il ne reste maintenant plus que 17-18 jours jusqu'à Rosh Hashanah, eh bien en fait, il est là pour nous préparer. Et Rosh Hashanah et Yom Kippourim. C'est-à-dire, en effet, d'une part, on doit, oui, faire un bilan par rapport à nos averot, essayer de programmer comment réparer, comment lâcher sa averot. C'est-à-dire que préparation à Yom Kippourim, la tshuva, et aussi préparation à Rosh Hashanah, puisqu'en fait, c'est entamer un nouveau programme pour l'année à venir. Donc, je prévois d'être libéré totalement de mes fautes l'année à venir. Alors, pendant Elul, je suis en train de vérifier tout cela. Parce que je me rends compte que, non, une Avera, je suis trop ancré dedans. On est habitué à une Avera depuis des mois, depuis des années. Et on sait que c'est difficile de s'en débarrasser. C'est bien beau, Rosh Hashanah dit Hachem Eler, mais je sais que concrètement, ça va être difficile. Et bien, c'est pour ça qu'on a quelques semaines auparavant pour se préparer. Comment pouvoir laisser l'Avera de côté pour pouvoir entamer une nouvelle année au Rosh Hashanah et dire Hachem Eler, Hachem Elar, Hachem Elor. Et c'est là, n'est-ce pas, où Rosh Hashanah va être une lumière gigantesque. Et sachez que c'est écrit dans le Baal HaMoussar que Rosh Hashanah, il a un impact un impact qu'on ne peut pas imaginer sur toute l'année, sur chaque instant, chaque seconde de l'année. Tout ce qu'on va faire, on va dire, on va penser au Shana, eh bien, il aura un impact gigantesque sur l'année à venir, et non seulement cela, sur toute notre vie. Parce qu'en effet, Rosh Hashanah, on est en train d'agir à des niveaux très élevés de notre âme et notre esprit. Prenez un machal, quelqu'un qui fait du 20 à l'heure, alors s'il tourne au volant de quelques centimètres, bon, il va à peine bifurquer légèrement vers la droite ou la gauche. Alors que s'il fait du 200 à l'heure, à peine il touche le volant de 2 mm et la voiture va être déportée. Pas aussi. Toute l'année, on avance au ralenti. Rosh Hashanah, eh bien, on est en train de speeder, en train de foncer. À peine, n'est-ce pas, tu vas, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, ce que tu vas penser en Rosh Hashanah, ça va avoir un impact gigantesque pour l'année à venir. On raconte que lors de Brisk, à Rosh Hashanah, ils étaient ténis pendant des heures. On a dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Gemara? Il a répondu, il a dit, parce que quand on fait de la Gemara, il faut de temps en temps se lever pour chercher un livre de la bibliothèque. Et c'est dommage de perdre ces instants si précieux en Rosh Hashanah. C'est pour ça que j'ai été Télim, comme ça je ne m'arrête pas un instant. Parce qu'en effet, chaque instant précieux Rosh Hashanah, parce que c'est une grande lumière, une lumière spirituelle pour notre vie, pour notre âme et notre vie éternelle.